Thierry de Montbrial est notre invité ce soir au bout du jour. Le patron de l'Institut français des relations internationales parle de la crise Covid et de notre gestion occidentale européenne en termes de prix de l'incurie. En regard des paroles martiales d'un Macron, des gesticulations paradoxales de Donald Trump et des colères, par exemple, d'un médecin, nous allons l'entendre, qui a tenté d'avertir. Que doit-on retenir de cette crise? Que nous enseigne-t-elle à l'heure du déconfinement pour les autres crises à venir? Réponse au bout du jour.
La première,
19h-20h,
au bout du jour,
Eddie Kackelbergs.
Je voudrais d'abord annoncer quelques importantes avancées dans notre guerre contre le virus chinois.
Pourquoi continuez-vous à l'appeler le virus chinois? C'est raciste.
Parce que ça vient de Chine. Ce n'est pas du tout raciste.
Nous travaillons pour assurer l'approvisionnement en matériel dans les zones qui en ont besoin, quand elles ont besoin. Dans certains cas, nous devons dire à des gouverneurs qu'ils n'auront pas d'aide, car nous estimons qu'ils n'en ont pas besoin, contrairement à d'autres endroits. Jusqu'à présent, nous avons eu souvent raison. Nous allons continuer comme ça. Cette semaine sera probablement la plus difficile. Malheureusement, il y aura beaucoup de morts, beaucoup moins que si nous n'agissions pas, mais il y aura des morts.
Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale.
Il nous faut aussi, et à mes yeux aujourd'hui, avant toute chose, produire davantage en France, sur notre sol. Produire parce que cette crise nous enseigne que sur certains biens, certains produits, certains matériaux, le caractère stratégique impose d'avoir une souveraineté européenne.
On a des exemples comme Taïwan, par exemple Hong Kong ou Singapour, où ils ont beaucoup mieux géré, ou même la Corée, ils ont beaucoup mieux géré cette situation. Nous, on ne l'a pas fait. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? Alors que nous avions une information, que nous avions le temps de nous préparer. Les choses ne sont pas sorties dans la presse non plus, peut-être parce que les experts n'avaient pas voix à la presse, mais ils n'en parlaient pas non plus sur les réseaux sociaux. Aussi parce que la presse avait certains experts en vue et d'autres comme moi, par exemple, qui ne suis pas considéré comme un expert, qui suis en dehors de l'académie, malgré que je présentais les choses avec des données qui étaient tout à fait référencées, je n'ai jamais pu être publié. Je voudrais voir l'agenda aussi de tous ceux qui sont les responsables politiques qui disent qu'ils ont travaillé depuis la fin du mois de janvier. Je voudrais savoir ce qu'ils ont fait pour développer industriellement des tests, des masques, trouver les cas pour les isoler. Mais pour moi, la réponse, elle est claire. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Il y a des gens qui savaient et qui auraient pu savoir, qui auraient pu se renseigner, mais qui ne l'ont pas fait.
Bonsoir Thierry de Montbrial.
Bonsoir.
Vous parlez dans un édito sur le site de l'IFRI du prix de l'incurie. Nous n'avons pas pu gérer correctement la crise?
On n'a pas pu gérer correctement, ou en tout cas idéalement, la crise pour une bonne raison, c'est qu'on n'y était pas préparé. Le problème, c'est que, contrairement d'ailleurs à ce que beaucoup de gens disent, cette pandémie ou une pandémie de ce genre, beaucoup de gens l'avaient prévue. Le plus célèbre, c'est évidemment Bill Gates, hein, en 2015, qui avait dit que le risque pandémique était beaucoup plus grand que le risque nucléaire, par exemple. Et je peux vous dire, pour avoir participé à de nombreuses reprises à des exercices de livres blancs de défense au sein du ministère des Armées en France ou dans d'autres institutions, que l'idée qu'une pandémie pourrait survenir, c'est une idée qui est envisagée depuis très longtemps. Simplement, les sociétés n'intègrent jamais sérieusement ce genre de prévision, parce qu'on ne peut pas les dater, on ne peut pas dire quand ça va survenir, et parce qu'il y a une espèce d'aversion au risque. Là, quand on n'est pas préparé, effectivement, on ne réagit pas bien. Les Asiatiques ont beaucoup mieux réagi parce qu'ils avaient des expériences récentes de pandémie et ils savaient comment il fallait traiter les choses, au moins dans un premier temps.
Il y a 12 ans déjà, hein, vous le rappelez, le 15 juillet 2008, dans le rapport Ramsès de l'IFRI, vous pointez une observation, et je cite, « On ne peut afficher aujourd'hui qu'une certitude, sans une adaptation drastique et rapide de la gouvernance planétaire, de grands drames mondiaux redeviennent possibles et même probables. » Donc vous-même, vous en appeliez déjà à une prévoyance à cet égard. Est-ce que pour autant, ça veut dire que vous avez prêché dans le désert ?
Alors, d'abord, pourquoi peut-on faire ce genre de prévision? Parce que la mondialisation, qu'est-ce que c'est? C'est une interpénétration de plus en plus grande des économies, des sociétés, du manière générale, des pays, mais qui en même temps restent souverains. Or, cette interaction croissante, ça produit un système complexe. La complexité, c'est l'impossibilité d'analyser dans le détail. Et plus un système est complexe, plus il est difficile de prévoir spécifiquement des catastrophes. On peut prévoir parce que les systèmes complexes peuvent brusquement déraper, si vous voulez. Mais je reviens toujours sur la même idée, on ne peut pas prévoir exactement quand et comment ça se produira. Pourquoi est-ce que j'avais écrit ça? Parce que vous aviez déjà eu les premières expériences avec les crises financières. La crise financière de 2007-2008 et qui s'est prolongée en France avec la crise de la zone euro. Vous avez eu dans un genre géopolitique, vous avez eu la crise du Moyen-Orient avec, soi-disant, le prétendu printemps arabe, bien mal nommé printemps arabe. Maintenant, vous avez la pandémie. Et j'indique d'ailleurs dans le même éditorial que, à coup sûr, un jour, nous aurons une pandémie numérique. Nous aurons une pandémie numérique. C'est-à-dire que brusquement, nous aurons tout le système international digital qui, quelque part, explosera. Vous voyez ce que ça peut donner comme catastrophe. Ça viendra. Alors, prêcher dans le désert, oui, dans la mesure où, pour faire face à ce genre de très grand risque de catastrophe, en même temps pas très précis dans la prévision, il faudrait une réorganisation de la gouvernance mondiale, passant notamment, entre autres, par des organisations internationales beaucoup plus fortes, pas beaucoup de pays y répugnent. Et on le voit bien aujourd'hui dans la querelle, par exemple, entre les États-Unis et la Chine.
Il est toujours difficile de dater concrètement, dans les faits géopolitiques, le début d'un siècle. Hein. D'aucuns disent que le 20e a commencé, évidemment, à Sarajevo avec l'événement déclencheur de la Première Guerre mondiale. On avait cru que les Twin Towers et les attaques terroristes du 11 septembre étaient le début du 21e. Vous dites c'est en 2008 avec la crise et la faillite de Lehman Brothers. D'aucuns prétendront un jour que c'est évidemment la pandémie qui marque le tournant.
Alors, chacun fait ce qu'il veut. Mais en ce qui me concerne, j'ai écrit dès 1989-90, dans la série des Ramsès, à laquelle vous faisiez allusion, que le 20e siècle, proprement dit, a été un siècle court. Pour moi, il va non pas de Sarajevo, mais de 1918-1919, c'est-à-dire la fin de la Première Guerre mondiale, à 1989, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin. Donc c'est un siècle court. Vous avez eu des siècles courts et des siècles longs en histoire sur le plan politique au sens large. Alors, entre 1989-90 ou 91, si vous voulez, 89 c'est la chute du mur de Berlin, 91 c'est la chute de l'Union soviétique, mais c'est le même événement pour l'essentiel. Entre 89-91 et 2008, c'est-à-dire la grande crise financière, on a eu une sorte de no man's land, c'est-à-dire une période intermédiaire très difficile à qualifier. C'est une espèce de temps un peu indéfini, où d'ailleurs chacun était à la recherche, comment le qualifier, est-ce que le monde était multipolaire, est-ce qu'il était apolaire, etc. Ça veut dire que c'était un monde qui était à la recherche de quelque chose d'autre. Mais il y avait cette croyance qui était très ancrée que les grandes catastrophes, justement, ne pouvaient plus se reproduire. Pourquoi est-ce que 2007-2008 et les prolongements de la crise de l'eurozone, pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que on avait cru un peu naïvement, ou beaucoup avaient cru, que par exemple les grandes crises économiques étaient terminées à jamais. Quand on a revu en 2007-2008 les gens faire la queue pour accéder aux banques, ce qui rappelait des images de la grande crise des années 30, c'est-à-dire la Grande Dépression, c'était quelque chose d'assez inimaginable. Et je crois que 2008, pour moi, est en effet, 2007-2008, est en effet une bonne date pour le début du 21e siècle, parce qu'elle nous montre que finalement, le monde n'a pas tellement changé, si vous voulez. C'est-à-dire que les risques de grandes catastrophes sont toujours là. Et l'idée qu'on est suffisamment avancé pour pouvoir évoluer vers une gouvernance mondiale parfaite, c'est une idée extrêmement naïve. Et donc, il faut refaire maintenant un apprentissage beaucoup plus modeste d'une gouvernance mondiale qui permette de maintenir ce qui peut être de la mondialisation, le meilleur de la mondialisation, tout en évitant les risques de grands dérapages.
Qui va pouvoir imaginer ce fait de redessiner en quelque sorte la mondialisation dès lors que vous soulignez vous-même dans cet éditorial qu'un certain nombre de très grandes entreprises, et on en connaît, se considèrent comme au-dessus des États?
Alors, je crois que ce que vous dites est un syndrome typique du début de ce siècle. Cette idée, au fond, que les États étaient devenus des petites choses, que c'était les chefs d'État et le gouvernement qui devait faire courbette, des courbettes aux grands patrons. C'était quelque chose qui était très répandu au début du siècle. Maintenant, évidemment, ça l'est beaucoup moins. Et on redécouvre justement l'importance des États. Le problème, la difficulté, c'est d'abord que les États doivent s'adapter eux-mêmes, parce que si on veut gérer les problèmes de santé, puisque c'est là-dedans qu'on est actuellement, avec les méthodes du 19e ou même du 20e siècle, on ne s'en sortira pas. Donc il faut que les États s'adaptent. Et il faut plus encore qu'ils apprennent à mieux coopérer ensemble. Et là, on a la difficulté que vous soulignez, une autre difficulté que vous soulignez aussi, c'est qu'il n'y a pas de leader. Et c'est pourquoi je pense que l'unification européenne, la poursuite du projet européen, est plus nécessaire que jamais. Il y a exactement un an, nous avons célébré le 40e anniversaire de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et j'avais choisi pour thème l'Union européenne, l'avenir de l'Union européenne face à la concurrence, à la compétition sino-américaine. Je crois que ce thème est plus important que jamais. Et aujourd'hui, les États-Unis sont incapables d'exercer le rôle de leader dans le monde. Les Chinois non plus, pour d'autres raisons. Nous apprenons d'ailleurs, nous, Européens, nous sommes en train de faire l'apprentissage, de commencer à comprendre qu'on n'a pas intérêt non plus à se jeter complètement dans les mains des Chinois et en devenir complètement trop dépendants, et notamment sur le plan économique, industriel, etc. Et donc, qu'est-ce qui nous reste comme choix ? Il nous reste de renforcer l'Union européenne, de renforcer notre Union. Et personnellement, si je passe du long terme au court terme, je suis de ceux qui se félicitent plutôt du dernier Conseil européen virtuel qui montre que même quand on se dispute beaucoup, même quand on manifeste beaucoup de désaccords, face aux grands défis, on a quand même finalement des réflexes pas si mauvais que ça.
Vous nous dites également que la complexité débouche, je vous cite, sur l'incertitude radicale. Par les temps très troublés où nous avons vu l'inquiétude sociale se manifester à bien des égards, bien plus largement qu'en France, à d'autres coins également de la planète, où l'on sent bien que toute une part de la classe moyenne sent qu'elle dévisse, voire disparaît, cette incertitude radicale peut-elle balayer un ordre ? Est-ce qu'il y a un risque de voir l'ordre actuel balayé ?
Alors, tout dépend de savoir ce qu'on appelle l'ordre, parce qu'il y a plusieurs ordres. Disons que nous sommes actuellement, nos sociétés sont actuellement extrêmement secouées, parce qu'elles ont l'impression aussi de redécouvrir des situations qu'on croyait abolies depuis le Moyen-Âge. On pense à la grande peste du milieu du XIVe siècle, mais enfin, on a pu oublier même la fameuse grippe espagnole, dont on a beaucoup reparlé pour le coup, qui a, on l'a rappelé aussi, juste au lendemain, qui avait commencé à la fin de la Première Guerre mondiale, mais qui s'est prolongée, et qui a fait un nombre de victimes très supérieur à celui de l'ensemble des victimes de la Première Guerre mondiale. C'est des choses de ce genre. Donc, on redécouvre ce genre de situation. Donc, c'est extrêmement secouant. Alors là, voyez-vous, au moment où nous parlons, nous sommes tous très, très secoués. Les gens ont tous, quelle que soit leur position, ils ont l'impression de vivre dans une espèce de halo, de brouillard, et ils ne savent pas trop comment s'en sortir. D'où l'enjeu de la sortie, un peu partout, de ce qu'on appelle la sortie du confinement. Qu'est-ce que c'est que la sortie du confinement ? La sortie du confinement, ça n'est pas oublier qu'il existe ce virus et qu'il va continuer d'être là pour un certain temps, c'est simplement d'essayer de réapprendre à vivre et à vivre le plus normalement possible, à reprendre les activités économiques, etc., à les reprendre socialement, mais simplement en s'adaptant de façon à éviter ce qu'on appelle des deuxièmes, troisièmes vagues, etc. Alors si nous, et vous voyez, là quand je parle de déconfinement, je prends le mot dans une acception très large, c'est pas au sens technique du terme. Si nous tous, les Français, Belges, Allemands, etc., si nous apprenons à sortir un peu d'un confinement médiéval et de l'étrangeté qui va avec, à ce moment-là, on peut, je crois, éviter les grandes catastrophes, c'est-à-dire l'écroulement complet de sociétés entières. D'ailleurs, si ceci devait se produire, vous voyez bien que ça conduirait à des révolutions absolument dramatiques. Donc, j'oserais vous dire que je suis relativement optimiste. Je crois que les hommes, au sens large, les humains, ont une capacité parfois tout à fait extraordinaire de s'adapter à des situations qu'ils n'avaient absolument pas anticipées. Et d'ailleurs, depuis plusieurs semaines, dans tous nos pays, nous observons aussi des comportements absolument admirables. Bon, il y avait des pénuries de masques. Bon, là, c'est pas les comportements les plus admirables, mais si vous prenez l'histoire des masques, par exemple, maintenant, on voit toutes les personnes qui sont capables de faire de la couture et qui se mettent à fabriquer des masques. C'est une petite chose. Mais je crois que la capacité d'adaptation des humains est très grande. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop penser qu'on va se trouver dans une catastrophe durable. Et même, on peut espérer que ce sera une leçon pour l'avenir et qui nous apprendra à prendre davantage de précautions pour mieux réagir la prochaine fois qu'une grande rupture, qu'une grande catastrophe se produira.
Mais dans votre éditorial toujours, Thierry de Montbrial, où vous trempez votre plume quand même dans une forme de colère, vous parlez notamment, alors en faisant référence à la problématique du climat, qui est un peu estompée et qui est pourtant probablement très liée à ce que nous vivons également pour l'instant, vous dites nous sommes avec des gouvernants qui pensent à peine à pouvoir gérer le présent, à subir le présent plus qu'à préparer l'avenir. Vous parlez de règne de l'impuissance et vous soulignez que souvent l'inefficacité bénéficie au populisme. Tout ça n'est pas optimiste.
Oui, alors c'est parce que je pense que les cris de colère, comme vous dites, ont une certaine vertu aussi. C'est justement de secouer un peu les gens. Alors, l'incurie, ce n'est pas celle des gouvernements actuels. Si nos différents gouvernements n'ont pas disposé de masques, pour prendre cet exemple, ou n'ont pas suffisamment de respirateurs, ce n'est pas ceux qui sont arrivés au pouvoir les derniers mois ou les toutes dernières années qui sont responsables. Ce sont évidemment les prédécesseurs. Bon. Par conséquent, le vrai problème, c'est celui que vous dites, c'est-à-dire comment les États et les gouvernements, et spécialement dans les démocraties, comment peuvent-ils mieux prendre en compte le long terme, c'est-à-dire les préoccupations de long terme? Alors, ce qui s'est passé, l'immense désordre qui a résulté, qui résulte encore d'une certaine manière de cette pandémie, ça vient de la mauvaise prise en compte d'événements rares, mais qui se produisent occasionnellement dans l'histoire, et le fait de ne pas les avoir pris en compte fait que nous nous retrouvons obligés de réagir sans aucune préparation. Bon, donc maintenant, là, pour l'avenir, la question c'est de mieux se préparer ou de se préparer tout court pour les autres chocs qui ne manqueront pas de survenir. Alors maintenant, si vous voulez, d'ailleurs, vous verrez, je vais envoyer, parce que j'ai appelé ça une lettre, je vais en envoyer dans les prochains jours une deuxième. Je crois que maintenant, il faut essayer de tirer des leçons positives de tout cela, de façon que nous soyons, que nos sociétés, nos États soient mieux préparés pour les chocs futurs qui ne manqueront pas d'advenir.
Restons quand même sur ce moment un peu de sidération que nous vivons, même s'il était déjà très présent auparavant. On parlait de ce populisme qui progresse. On voit aussi que les régimes autoritaires, on leur donne certaines vertus. Certains prétendent que pour gérer une crise, l'autoritarisme est mieux que la démocratie, plus efficace. On voit que certains citoyens, et parmi les plus jeunes notamment, sont prêts depuis quelque temps à sacrifier des libertés fondamentales ou des libertés publiques au profit d'une sécurité accrue, et la sécurité sanitaire en fait évidemment partie. Et à propos de ces régimes autoritaires potentiels, vous dites s'il apparaissait que les régimes autoritaires n'étaient pas plus efficaces que les démocraties dans l'actuelle pandémie, ce ne serait pas nécessairement à l'avantage de la liberté et de la paix.
Exactement. Exactement. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire? Ça veut dire que on voit bien que depuis un certain nombre d'années, les démocraties libérales, comme on dit aujourd'hui, les démocraties libérales sont très largement inefficaces. Bon, et nous aurions eu cette discussion avant l'apparition du Covid-19, que je vous aurais dit exactement la même chose. Donc c'est pas nouveau, l'inefficacité des démocraties. Vous voyez d'ailleurs, pour prendre simplement mon pays, la France, la difficulté que nous avons à mener des réformes courantes, si j'ose dire. Donc les démocraties libérales sont inefficaces. Bon, la Chine, qui se présente comme une démocratie autoritaire, a quelques bonnes raisons de se déclarer efficace. Bon, c'est grosso modo le développement qu'elle a connu en 40 ans est quelque chose d'absolument sans précédent historique. C'est très largement vrai. Bon, et on pourrait donner d'autres exemples. Singapour, pour prendre d'autres exemples en Asie, s'est développé aussi de manière absolument remarquable avec un homme qui avait une poigne de fer qui s'appelait Lee Kuan Yew. Et je pourrais vous parler aussi en Afrique, par exemple, d'un petit pays comme le Rwanda qui a une incroyable réussite économique et sociale, d'ailleurs, sous la présidence de Paul Kagame. Donc, les démocraties, il y a un cas, il y a une argumentation pour chanter l'efficacité des démocraties illibérales. Et certains en Europe, on pense évidemment en Pologne, à la Pologne et à la Hongrie, s'appuient là-dessus pour justifier les démocraties illibérales, même si dans leur propre cas, leur succès reste à démontrer, ce qui est encore une autre histoire. Voilà. Et donc, le point important qui est derrière tout ça, c'est que si nos démocraties libérales, comme en Belgique, en France, en Allemagne, avec des modalités qui peuvent varier d'un pays à l'autre, en Italie, etc., si nos démocraties libérales continue de se montrer incapable de traiter les problèmes, à un certain moment, elles perdront leur légitimité. Parce que moi, je suis convaincu qu'un régime politique ne peut pas indéfiniment rester légitime s'il n'est pas efficace. L'efficacité sur le long terme est une condition nécessaire de la légitimité. Et voilà. Et donc, voilà, le problème est maintenant posé et l'histoire du Covid-19 nous oblige à poser cette question d'une manière beaucoup, beaucoup plus crue. Et le grand enjeu européen aujourd'hui, l'Union européenne, c'est exactement celui-ci. Nous devons montrer, la balle est entre nos mains maintenant, et nous devons démontrer qu'il est possible d'être à la fois démocratique et efficace. Et je crois que la survie de l'Union européenne dans les prochaines années dépendra très largement de la capacité à faire cette démonstration.
En termes géostratégiques, en parlant de l'Alliance Atlantique, vous dites qu'elle est dans l'état de mort cérébrale que déplore Emmanuel Macron. On pourrait cependant, dites-vous, imaginer sa renaissance avec une conception extensive de la sécurité qui engloberait des problématiques de climat, de santé ou de numérique.
Exactement. Parce que je vous faisais allusion tout à l'heure au fait que les gens qui réfléchissent sur les questions de sécurité, bien avant l'apparition du Covid-19, se posaient la question des grandes pandémies, etc., etc. Aujourd'hui, il y a évidemment de très nombreux problèmes géopolitiques, comme on dit, mais vous n'avez plus du tout de situation comparable à celle de la guerre froide et les grandes menaces nucléaires qui existaient à l'époque. Nous sommes aujourd'hui dans un monde totalement différent. Il y a énormément de petites menaces, mais il n'y a plus de grandes menaces dominantes, actuellement tout au moins, dans l'ordre géopolitique. En revanche, il y a beaucoup d'autres menaces qui proviennent, et là je reviens au point de départ de notre discussion, de notre conversation, il y a énormément de menaces de nature différente qui proviennent de la complexité non maîtrisée de nos interdépendances, c'est-à-dire liée à la mondialisation. Et j'ai cité les interdépendances financières, puisque c'est le problème de la grande crise de 2007-2008 prolongée par celle de l'eurozone à partir de 2010, et la problématique sanitaire. Et donc, en effet, je pense que revoir, réviser le concept de sécurité d'une manière beaucoup plus globale, c'est-à-dire en prenant l'ensemble des menaces, des grandes menaces susceptibles de se produire, de se réaliser, et de voir quel type de solidarité entre les membres de l'Alliance pourrait être mise en œuvre, je pense que c'est un grand sujet. Et j'irai jusqu'à dire que c'est la seule manière de sauver l'Alliance Atlantique qui, alors j'aurais peut-être pas personnellement employé cette expression aussi forte que la mort cérébrale qui a produit un grand choc, l'expression de Macron, mais la réalité est là. D'ailleurs, j'entendais l'autre jour une interview sur une radio française de M. Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Le journaliste lui posait un certain nombre de questions qui étaient liées d'ailleurs au Covid-19. Et les réponses du secrétaire général de l'OTAN étaient pathétiques. Il était complètement à côté de la plaque, si vous voulez. C'est-à-dire que je crois que oui, cette question de la reformulation de la notion de sécurité est importante. Maintenant, on est bien obligé de constater que ce sera très difficile à faire avec M. Trump. Et même si Joe Biden était élu, on trouverait à ce moment-là un président plus classique, le président des États-Unis plus classique. Néanmoins, je crois que les États-Unis ont très profondément changé, durablement changé, et que de maintenir les États-Unis dans un système d'alliance même refondé ne sera pas une chose facile.
Merci pour cette mise en perspective qui nous renvoie à la fois à ce qui nous est le plus proche, les États et l'Union européenne, mais aussi à nous inscrire dans ces perspectives multilatérales. Thierry de Montbriel, je rappelle que bien entendu, on peut retrouver et vos publications et vos articles sur le site de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci d'avoir été au bout du jour avec nous.
Merci à vous.